Donc, ceci étant dit, je vous invite tout de suite à ouvrir la parole, si vous voulez bien, en Colossiens, premier chapitre. Donc, on va poursuivre encore une fois, quelle est, ou plutôt dans quelle saison êtes-vous? Et ce qu'on a dit dernièrement, c'est quoi? C'est que dans nos vies, comme dans le monde naturel, comme dans nos vies, on passe à travers différentes étapes, on passe à travers différentes saisons. Et dernièrement, l'hiver a voulu nous dire, je pense que on est encore l'hiver. Amen. Même si le printemps approche à grands pas, on se trompe pas, c'est encore l'hiver. Et dans nos vies, il y a des signes. Il y a des signes comme ça également qui peuvent nous aider non seulement à déterminer dans quelle saison nous sommes, mais également quelle saison qui s'en vient. Et alors qu'on arrive à déterminer dans quelle saison on est sur le point d'entrer, on est à même d'être plus efficace à bien nous préparer pour cette nouvelle saison. Et pour entrer dans la saison que Dieu a pour nous, il y a une chose qui est primordiale, qui est importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est d'apprendre justement à entendre, à connaître et à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc ici, en Colossiens 1, chapitre 1, verset 9, c'est l'apôtre Paul ici parle et qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Autre raison, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Dans ce bref passage, on vient de voir l'importance et tous les bénéfices dans nos vies, de connaître et de savoir quelle est la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, pourquoi? Pour marcher d'une manière qui lui est digne et agréable. Connaître la volonté de Dieu, pourquoi? Pour porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Connaître la volonté de Dieu, pourquoi? Pour grandir dans notre connaissance de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, pourquoi? Pour être fortifié à tous égards. Pourquoi? Parce que lorsque tu connais la volonté de Dieu, que tu connais la saison qui s'en vient, tu es capable d'endurer plus fermement ce qui se passe maintenant parce que tu sais que sa fidélité est grande. Amen. Et, wow, en sorte que vous soyez toujours, pas juste persévérant ni patient, mais avec joie, persévérant et patient. OK? C'est pas comme mon fils, hein, à qui je dois apprendre la patience. C'est un enfant, c'est normal. Et il me pose une question, il demande, est-ce que je peux jouer à un jeu sur ton iPad? J'ai dit, attends. Pas tout de suite. Sois patient. Alors, OK. Donc, 10 minutes après, papa, je suis patient, hein? Oui. J'arrête de me le demander. 10 minutes plus tard, je suis patient, je ne te l'ai pas demandé encore, hein? Non, mais oui. C'est pas de cette patience-là que je parle. c'est la joie là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui patientent, mais la joie n'est pas là. Qui persévèrent, mais la joie n'est pas là. On avance sans joie et la joie de l'Éternel est notre force. Lorsque tu avances sans joie, mes amis, tu perds ta force. Donc, ça devient difficile de persévérer dans quelque chose que l'on désire lorsqu'on perd notre force. Vous savez très bien comme moi, hein, les journées où tu te lèves le matin, où tu es joyeux, on dirait que tu te sens plus apte à traverser n'importe quoi qui se passe dans ta journée, mais au contraire, les autres journées où tu te lèves, où est-ce que justement la joie est pas là, la moindre petite chose dans ta journée, c'est « wow, une montagne ». C'est important pour nous de préserver, de garder, de conserver, de protéger cette joie-là. Et aujourd'hui, ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est cette question qui est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma situation? Quelle est la volonté de Dieu pour cette saison? Et cette question-là, c'est une question que tout le monde se pose. Hein? C'est une question qui, en soi, est loin d'être mal, est nécessaire, et pourquoi? Surtout davantage lorsque tu as vraiment le désir, justement, d'être agréable à Dieu. Tu veux savoir quelle est sa volonté. Amen? Me voici, me voilà, envoie-moi, que veux-tu que je fasse? L'apôtre Paul, c'est exactement la question qu'il a posée au Seigneur lorsque, divinement, il a rencontré le Seigneur. Après, pas longtemps, ce qu'il a dit, c'est quoi? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et dans nos vies, cette question-là aussi arrive. Et ce que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est que cette question-là a une réponse. Et elle a une réponse positive. Ce n'est pas une réponse, ou plutôt une question dans laquelle on est appelé à se perdre. Parce que plusieurs, en cherchant la volonté de Dieu, se perdent. Impatience, comme on a vu. L'inquiétude. Donc, on persévère, soi-disant, vers la recherche de la volonté de Dieu, mais on persévère non dans la joie, mais on persévère avec inquiétude, avec stress et avec peur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cheminement alors qu'on cherche à faire la volonté de Dieu? Cette inquiétude, cette peur, ce stress nous amène à faire des décisions qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et avant de voir comment connaître la volonté de Dieu, vous allez voir, il n'y a rien de scientifique là. C'est très simple les points qu'on va voir ensemble ce matin. Il y a des fondements de base qu'il faut comprendre et qu'il faut saisir, et plus que saisir. Il y a des fondements de base qu'il faut décider, c'est ainsi et ça ne changera jamais. Parce que si dans vos vies, vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas cru, vous n'avez pas saisi ces principes de base qu'on va établir ensemble ce matin, vous allez constamment être ballotté à savoir quelle est la volonté de Dieu. Vous allez aller d'un côté, vous allez vous demander si vous avez bien fait. Vous allez aller de l'autre côté, vous allez vous demander si vous avez bien fait. Et encore une fois, il y a des périodes de questionnement. On ne peut pas vraiment passer à côté de ces périodes de questionnement-là. Mais il y a une issue, il y a une manière de sortir, il y a une manière, comme on a vu la semaine dernière, il y a une façon de sortir du désert. On ne peut peut-être pas s'éviter le désert. Au contraire, le désert même est nécessaire, mais il y a une manière de sortir du désert. Parce qu'il y a des choses à apprendre dans le désert. Donc déjà, la première chose qu'il faut comprendre, le premier principe de base, encore une fois, base, c'est quoi? C'est que Dieu a un plan pour nous. Okay? Avant de dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour savoir ce que Dieu veut? Il faut que tu comprennes ce matin que Dieu a un plan pour toi. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. On va dire ensemble son ouvrage. Son ouvrage. Son ouvrage. Son œuvre d'art, sa création. Car nous sommes son ouvrage étant créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce matin, il faut que tu sortes d'ici avec la conviction, en ne remettant plus en question ce point-là, que Dieu a un plan pour toi. Si tu mets ça en doute, ça va être très difficile de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Ça va être difficile de marcher avec assurance dans ce que Dieu va avoir préparé pour toi si tu n'es pas convaincu ce matin que Dieu a un plan pour toi. Donc, non seulement Dieu a un plan pour toi, mais le deuxième principe de base, c'est quoi? C'est que le plan que Dieu a pour toi est bon. Je l'ai dit là, il n'y a aucune science, c'est pas très scientifique ce matin là. Mais c'est simple. Parce qu'on s'écarte des fois de cette simplicité-là. Jérémie 29, 11. Et moi, ou plutôt en effet, moi, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu te demandes aujourd'hui s'il y a de l'espoir pour ta situation? Jérémie 29, 11. Tu te demandes aujourd'hui s'il y a un avenir pour toi? Jérémie 29, 11. Donc aujourd'hui, tu dois quitter en ayant la conviction que Dieu a un plan pour toi et que son plan pour toi est bon. Ça doit être deux choses que tu ne remets plus jamais en question. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est qui il est. Et puisque Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'on va définir ici ce matin ne changera plus jamais non plus. La seule chose qui va changer, c'est si tu vas continuer, toi, à y croire ou non. Que je crois à la fidélité de Dieu ou non, que je doute de sa fidélité dans certaines circonstances de ma vie, ne change absolument rien au fait que Dieu demeure fidèle. Rien. Mais l'impact ou la manifestation de sa fidélité dans ma vie est influencé par quoi? Par le changement de Dieu? Non, par le changement de moi. Le changement de mon attitude, le changement de mon raisonnement, le changement de mes déclarations, le changement de comment est-ce que moi je vais dire, je comprends pas, je sais pas ce que tu veux que je fasse. OK? C'est deux choses que, si on est honnête, on se dit tous, une fois de temps en temps. Seigneur, je comprends pas. Seigneur, pourquoi ça s'est arrivé? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, j'en ai aucune idée. Ici, on se retrouve tous. Mais la différence va être quoi? La différence va être, soit à ces questions, tu vas dire, j'abandonne, je comprends rien, je sais pas ce que tu veux, donc à quoi ça me sert de faire tout ça? Ou tu vas dire, je comprends rien, je sais pas ce que tu veux, mais c'est une chose. Tu as un plan pour moi. Amen. Ton plan pour moi est bon. Okay? Je comprends rien. Je ne sais pas où m'en aller. Donc, à quoi ça sert de lire ma Bible? À quoi ça sert de continuer à confesser ta parole? Je comprends rien. Je ne sais pas où m'en aller. Mais ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole dit que tu as un plan pour moi préparé avant la fondation du monde. Donc, je vais continuer à confesser ta parole. Amen? C'est qui change ici? Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui changeons. Et on a ce réflexe-là, des fois, très humain, mais loin d'être divin. On pense que Dieu a disparu. On pense que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, sa parole dit qu'il ne nous abandonnera jamais. On a l'impression, on dirait qu'il n'est plus là. On dirait, c'est justement ça. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Ce matin, vous allez vous appuyer sur le fait que Dieu a un plan pour moi et son plan pour moi est bon. Et par la suite, on va établir ici quoi? Que non seulement il a un plan pour nous, non seulement que ce plan est bon, mais hey! Il désire nous révéler ce plan. On agit des fois comme si Dieu, il joue à cache-cache tout le temps. Et qu'il se cache, hein, puis non seulement il se cache, mais il change de cachette. Il est caché ici, et là, finalement, après des semaines de jeûne, des années de prière, finalement, on se rapproche de lui, puis on est là, prêt à le toucher, puis à le trouver. Juste à ce moment-là, il change de cachette, il s'en va ailleurs. Hein? Dieu se cache pas. Dieu a envoyé son Fils pour enlever la séparation qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Dieu ne se cache pas. Dieu a envoyé son Fils afin que, comme Christ a dit, si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Dieu a envoyé son Fils pour qu'on connaisse le Père. Le voile dans le temple à la mort de Christ a été déchiré. Pourquoi? Signifiant pour nous, comme Hébreux nous le dit, que nous avons maintenant, par le sang de Jésus, un quoi? Un libre accès. Pas seulement un accès, un libre accès. Wow! C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je veux trouver Dieu, j'ouvre la porte et j'y vais. Amen. Il veut nous révéler ce plan. Pardon. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. La Bible dit également, quoi, que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour que nous connaissions toutes les choses que Dieu nous a préparées, nous a données par sa grâce. Dieu veut nous révéler les choses, là. Et il veut, ça serait totalement ridicule, c'est de dire, j'ai un plan pour toi, mon plan est bon, mais je ne veux pas te dire c'est quoi. OK? C'est comme vous arrivez chez vous, vous dites à votre femme ou à vos enfants, « Wow! J'ai quelque chose pour toi! » Je suis sûr que tu vas aimer ça, j'ai trouvé ça au magasin, j'ai acheté ça, et tu n'as aucune idée c'est quoi, mais je te garantis, je sais que tu vas l'aimer. C'est quoi? Ben, je te dis pas. OK. Bon, peut-être demain. Non, demain, tu le dis pas non plus. Tu l'as acheté et caché dans le garde-robe quelque part, mais... Mais tu vas aimer ça, là, je te dis. OK? C'est quoi? Devine! Et si tu ne devines pas, tant pis pour toi, je ne te le donne pas. OK? C'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on pense que Dieu agit comme ça avec nous? Cherche un peu plus. Cherche encore. Non, c'est pas assez. Encore. Jeûne un peu plus. Prie un peu plus. Lis un peu plus. OK? Donc ça nous met dans des situations quoi? Ça nous met dans des situations où j'entends régulièrement est-ce qu'il y a quelque chose d'abord dans mon passé ou dernièrement j'ai fait qui fait en sorte que j'entends plus Dieu, qui fait en sorte que Dieu veut pas me révéler. On a l'impression vraiment que Dieu est comme ça, les bras croisés, les sourcils un peu froncés, puis il attend. Il dit quand est-ce qu'ils vont comprendre? Nous avons un libre accès auprès du Père. Il veut nous le révéler. Et non seulement il veut nous le révéler, mais il veut nous y conduire également. Okay? Il a un plan, son plan est bon, il veut dire c'est quoi son plan. Et non seulement il veut dire c'est quoi son plan, mais il veut t'accompagner dedans. OK? Avant de te demander, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quelle est ta volonté pour ma vie, tu dois absolument écrire ça sur la table de ton cœur, de dire, Dieu a un plan pour moi, son plan est bon, il veut me le révéler et il désire m'accompagner. Parce que si on arrive à établir ça, le comment, après, devient assez simple. Parce que le comment est directement basé là-dessus. Hein? Parce qu'encore une fois, ce qui nous empêche souvent de connaître la volonté de Dieu et de savoir dans quelle direction il désire que nous allions, c'est tous les scénarios que nous faisons dans notre tête. C'est tous les projets que nous mettons en place. Mais si je sais que Dieu a un plan pour moi, alors je n'ai pas de temps à perdre à me faire trop de scénarios. Si je sais que son plan pour moi est bon, alors à quoi ça me sert de passer des nuits blanches à essayer de dire oui, mais si, peut-être que s'il arrive, si je vais faire... Parce que je sais que son plan est bon. Pourquoi est-ce que je vais stresser en me disant je ne sais pas si je sais que son désir, c'est de me le révéler? Oui, mais si c'est Dieu, si c'est ce qu'il veut que je fasse, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, pourquoi est-ce que je vais me stresser avec ça si je sais que non seulement il veut me le révéler, mais il veut me conduire dedans? Hein? Ça rend la question un peu plus simple à répondre, n'est-ce pas? Parce qu'après, ça, tu reposes sur quoi, en fait, après? Sur sa fidélité. Et notre espérance en Christ, là, elle est basée là-dessus. Amen? La foi qu'il est fidèle. Qu'il est fidèle de ce qu'il a dit dans sa parole. Que si tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, amen, tu seras sauvé. Pour être sauvé, on croit à sa fidélité, là. On croit au fait qu'il va tenir sa parole, que j'ai confessé, que je crois dans mon cœur et que je vais être sauvé. Amen? Alors, c'est exactement la même chose pour chaque plan que Dieu a pour notre vie. Et Dieu nous conduit comment? Dieu nous conduit à un pas à la fois, une saison à la fois. Même si tu veux sauter des saisons, non seulement ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas à ton avantage. Parce que oui, chaque saison peut amener son lot de problèmes, mais chaque saison amène son lot de bénédictions aussi. Okay? Chaque saison amène à... okay? C'est vraiment un exemple très simple. C'est comme dans un jeu vidéo, ok? Le seul jeu vidéo que je joue avec mes enfants, c'est Mario Bros. C'est très, 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 très Super Mario Bros. Okay, c'est pas très jeune, mais bon. Et à Super Mario, tu dois trouver des pièces, ok? Dans chaque tableau, il y a des pièces d'or que tu dois trouver. Il y en a 3 par tableau. Et il y a certaines de ces pièces qui sont cachées. Et des fois, elles sont cachées et c'est difficile d'aller les chercher et tu risques de perdre des vies. Donc, au début, on a joué et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, hey, on a réussi à trouver 1 pièce sur 3, ça sera 1 pièce sur 3. Notre but, c'est simplement de réussir à finir le tableau. Mais tu réalises que, une fois que tu as réussi tous les tableaux, que tu es rendu à la fin, il y a quelque chose qui débloque. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre, parce que tu as réussi tous les autres d'avant, il y a un nouveau monde qui s'ouvre avec d'autres tableaux. Mais, pour y accéder, il te faut toutes les pièces d'or. Donc, qu'est-ce que tu es obligé de faire à ce moment-là? C'est de recommencer. Vous voyez ce que je veux en venir? OK? Est-ce que tu veux t'obliger de tout recommencer? De prendre le temps d'aller chercher ce que Dieu veut que tu trouves dans cette saison-là, plutôt que d'essayer de trouver des raccourcis. Parce que le jour où tu vas être rendu dans cette fameuse saison, tu vas réaliser à ce moment-là, « Ah, OK, c'est pour ça. » Alors qu'ici, tu te dis « Pourquoi? » Là-bas, tu vas te dire « Ah, c'est pour ça. » Mais quand tu vas dire « Ah, c'est pour ça », soit tu vas dire « Wow, gloire à Dieu, merci parce que j'ai été fidèle », ou tu vas dire « Oh non, j'aurais dû être fidèle. » Parce qu'on se rappelle, Dieu a un plan, son plan est bon, il veut vous révéler et il veut vous conduire dedans. Donc, ce que tu ne comprends pas ici, ça ne change rien au fait que, encore une fois, hein, Dieu a un plan, son plan est bon. Ce que tu ne vois pas ici ne change rien au fait que Dieu a un plan, son plan est bon. Il veut te le révéler et il veut te conduire dedans. Oui, mais ça ne change rien. Absolument rien. Mais nous, on doit comprendre. Hein, on doit tout comprendre. Tout. S'il arrive quelque chose, il y a une raison précise de pourquoi et je dois la savoir. Pourquoi? Si Dieu est bon, qu'il a un plan pour nous, son plan est bon, qu'il veut nous le révéler et veut nous conduire. Okay? On passe plus de temps à essayer de comprendre qu'à essayer de connaître Dieu. Donc, pendant tout le temps qu'on essaie de comprendre la situation et qu'on se dit pourquoi ci, pourquoi ça, Dieu dit, si tu me connaissais davantage, tu ne te poserais pas toutes ces questions. Parce que tu saurais que je suis fidèle, que je suis bon en tout temps et que, ah oui, au cas où vous ne vous en rappeliez plus, il a un plan pour vous. Son plan est bon, il veut vous le révéler et il veut vous y conduire. Hein? Oui, oui, c'est pas la dernière fois que je le dis aujourd'hui. Hein? Parce qu'il faut que ça soit ancré en nous, ça. Parce que juste ces quatre petits principes de base vont nous aider à être plus solides dans notre marche. Okay? Un jour, je fais un pas et je suis convaincu que je suis dans la volonté de Dieu. Le lendemain, je fais un pas dans la même direction et je suis convaincu que je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Il faut que ça arrête, ça. Okay? Il faut que ça arrête. Est-ce qu'on peut... Est-ce que ça veut jamais dire que ça veut dire qu'on ne va jamais rencontrer le doute, le questionnement ou quoi que ce soit? Écoute, on a vu l'exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a prophétisé la venue de Christ. Il savait très bien que son ministère, c'était d'annoncer la venue de Christ. Et quand il a vu Christ, il a dit, voici, c'est lui. C'est lui que je vous parle depuis des années, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et pourtant, lorsque Jean était en prison, il a posé la question, allez voir Jésus et dites-lui, es-tu celui qui devait venir? Sa vie entière était basée sur le fait de préparer le chemin pour Jésus, la venue de Jésus. Il a vu Jésus. Quand il a vu, il a dit, c'est lui, celui qui m'a envoyé prêcher dans le désert. Il a dit, quand celui que tu vas voir, l'esprit tomber sur lui comme une colombe, c'est lui. Et il a vu de ses yeux ça. Et il a déclaré de sa bouche, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et pourtant, au plus faible probablement de sa vie, sentant, et voyant une saison qui va se terminer pour lui, que la prochaine saison, c'est probablement la mort. Amen. Il se dit, écoute, j'ai pas fait ça pour rien, j'espère. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir vraiment? Est-ce que c'est toi? Hein? Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous de douter, d'être confronté à ça, de faire ardemment quelque chose, de désirer ardemment quelque chose. Et même au fond de notre cœur, on sait qu'on fait la bonne chose. Et un jour, pour X raison, on se lève le matin et on est là, Seigneur, dis-moi que je ne suis pas en train de faire ça. On a besoin de cet encouragement-là. Et Jésus l'a encouragé. Il l'a encouragé comment? Il l'a encouragé en lui disant ce qui allait se passer. Il l'a encouragé en lui rappelant la parole de Dieu. Dites-lui, la bonne nouvelle est prêchée. Les aveugles voient. Hein? Il n'a pas dit, oui, c'est moi. Non, non. Il lui a donné la parole. Il dit, voici ce que la parole dit de moi. Voici ce qui se passe maintenant. Et ça en vient justement, comment savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu? Ça va peut-être vous décevoir, comme ça m'a déçu la première fois. Je vous explique. Dans une période de ma vie, il y a plusieurs années, où je me présente devant ma mère et je lui dis, « Maman, il arrive telle chose dans ma vie, telle chose, je ne comprends rien. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. On dirait que depuis que je vais à l'église, c'est pire. Qu'est-ce que Dieu veut? Où est-ce que Dieu est? Comment est-ce que je fais pour l'entendre? Et ma mère m'écoute et je parle presque tout seul pour finalement me dire, prie et lis ta parole. Oui, mais maman, je sais. Mais tu ne comprends pas. Ce que je vis, je l'ai lu, ma Bible. J'ai prié, mais je n'ai pas de réponse. Continue. Et là, parce que tu penses qu'elle ne comprend pas, tu dis, écoute-moi bien, maman. Voici ce qui s'est passé. Et là, tu lui décris en détail tes journées, les situations qui s'est passées. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère me prêche au téléphone. Vous pensez que je prêche parce que vous n'avez jamais entendu ma mère? Écoute, je peux être à terre 2 minutes. 2 minutes. Puis les 2 minutes, c'est les 2 minutes que je prends pour lui dire qu'est-ce qu'il y a. Et après, c'est, écoute, est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu est fidèle ou Dieu n'est pas fidèle? Et là, elle commence à me prêcher, elle me sort les versets. Puis finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu raccroches. Et t'appelles quelqu'un qui va te comprendre. N'est-ce pas? Mais je remercie Dieu pour ma maman. OK? Parce que encore aujourd'hui, je te dis aujourd'hui encore, 19 mars, ma mère me texte. Maintenant, elle a un courriel, donc c'est fou, là. Elle a une adresse courriel, donc maintenant, elle m'envoie des courriels. Elle m'envoie des courriels. Ce qu'elle m'envoie, c'est quoi? Elle m'envoie des versets. Ma mère, c'est ce qu'elle m'envoie, c'est des versets. Pour m'encourager, pour m'exhorter, constamment. Et c'est le genre de personne que, avant d'aller devant pour lui présenter tes problèmes, tu as déjà pris le temps de régler ton problème. Tu comprends? Parce que tu sais déjà ce qu'elle va te dire. OK? Et ce qu'elle m'a dit, c'est ça. C'est Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et vous en connaissez, vous en êtes peut-être. Et mes parents, c'est des gens qui ont traversé énormément d'adversités dans leur vie. Okay? Et jamais, j'ai entendu ma mère quelque chose qui sortait de sa bouche qui ressemblait à un doute par rapport à Dieu. Jamais. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais, maman? Où est-ce que je vais? Et elle, avec tout son calme, me dit, prie et lis ta parole. Et aujourd'hui, mes amis, je vais vous dire, avec le même calme, comment faire pour connaître et marcher dans la volonté de Dieu. Je vais vous dire, priez et méditez votre parole. OK? Je peux vous donner plein d'autres raisons pratiques, techniques, step 1 à 10, là. Hein? Mais ça va en revenir là. Priez, méditez votre parole. Et on regarde ça d'un point de vue humain et ça paraît insuffisant. Hein? Et non seulement ça paraît insuffisant, mais ça paraît pas assez... avoir un impact, ça paraît faible ou impuissant. Mais pourtant, la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Okay? Nous sommes esprits. Non seulement nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité, nous sommes appelés à marcher en esprit. Nous sommes appelés à nous battre en esprit. À avancer en esprit. Donc, lorsqu'on veut vaincre des choses dans nos vies, alors que nous sommes esprit, nous allons emprunter des armes qui sont spirituelles. Okay? Nous sommes esprit, mais trop souvent, nous essayons de combattre avec des armes charnelles. Allô? Mais pourtant, wow! Lorsqu'on regarde en Éphésiens chapitre 6, qu'est-ce que la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 6 nous dit que c'est, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'épée. C'est l'épée du Saint-Esprit. Hein? Si je m'en vais dans un combat, j'aimerais bien avoir une épée dans les mains. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est l'épée du Saint-Esprit. parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, arrêtons d'avoir cette mentalité de ce qui vient contre moi, c'est toujours charnel, direct. Non, 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 non. Dans notre vie chrétienne, dans le combat de la foi, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alors, si nous ne combattons pas contre la chair et le sang, ne nous armons pas de chair et de sang. Armons-nous de ce qui est spirituel. Armons-nous de la parole de Dieu. Armons-nous, comme Dieu a dit à Josué, un passage que j'ose croire que 90% des chrétiens connaissent, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que quoi? Tu auras du succès, c'est alors dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. OK, tu viens me demander comment je fais pour savoir la volonté de Dieu, comment je fais pour réussir. Médite ce livre de la loi, jour et nuit, et efforce-toi d'agir fidèlement selon ce que ça dit. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que Josué, ce livre de la loi, ça représentait quoi? Ça représentait quoi? Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Donc, Dieu dit à Josué, « Hey, si tu continues à lire Lévitique, à méditer Lévitique, continue à méditer Nombre, continue à méditer à Deutéronome, je te le dis, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. » Intéressant, n'est-ce pas? Et ça, c'est des livres que... Hein, c'est ça. Mais non seulement nous avons tous ces livres de la loi, mais nous les avons expliqués, révélés, en plus de toute une nouvelle révélation que l'apôtre Paul et les autres nous apportent de la parole de Dieu. Alors, si Josué pouvait réussir dans toutes ses entreprises en lisant Lévitique, à combien plus forte raison je suis plus que vainqueur en lisant les Épîtres et le Nouveau Testament, s'il vous plaît? Excusez-moi. Et ce ton-là, pourquoi? C'est parce que je rencontre tellement de gens pour qui la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Pour qui, comme moi, ce jour-là, je vais dire, OK, je vais appeler quelqu'un d'autre qui va vraiment me comprendre et qui va m'aider. Jusqu'au jour où tu réalises que la personne qui peut vraiment me comprendre, c'est qui? Ah oui, c'est celui qui m'a créé, qui a un plan pour moi, que son plan est bon, qui veut me le révéler et qui veut me guider dedans. Et celui-là, il a mis sa volonté dedans. La meilleure façon de connaître la volonté de Dieu, façon numéro un de connaître la volonté de Dieu, lisez sa Bible, lisez sa parole. Parce que quoi? Christ est venu sur terre, la représentation parfaite de Dieu. Il est venu pour montrer au monde qui est Dieu. Et la parole nous dit, Christ a été fait chair, amen. Et la parole que nous avons, c'est Christ. Donc, si Christ est venu pour nous montrer qui était Dieu, et que la parole que nous avons ici, c'est Christ, l'épée du Saint-Esprit, notre âme que nous avons, si je veux connaître la volonté de Dieu. Écoute, il y a des gens qui pourraient se sauver beaucoup de troubles si seulement ils connaissaient un peu davantage leur parole. OK? Et je le dis pas par condamnation, je le dis parce que ce sont des faits. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions qui sont répondues simplement en noir et blanc dans la Bible. OK? Et il y a beaucoup de principes de vie qui sont répondus dans la parole de Dieu. Lisez Proverbes, c'est plein. Tu médites Proverbes, tu lis Proverbes, je te dis, tu as une bonne base dans la vie. Hein? Une bonne base de savoir comment te comporter avec les autres. l'honneur que tu dois avoir aux autres, le fait de dire, de pas te mettre en colère, d'oublier les offenses, d'honorer tes parents. Écoute, dans Proverbes, il y en a énormément de conseils de vie, parce qu'en réalité, c'est un peu le but de ça aussi. Amen? Enseignement, et ce qu'on dit dès le début, c'est quoi? C'est justement de garde cet enseignement-là. Garde-le dans ton cœur. Mais c'est facile, encore une fois, de se détourner de ça. Pourquoi? Parce que les autres choses autour de nous semblent parler beaucoup plus fort et semblent être beaucoup plus efficaces. Mais la seule chose qui est efficace et qui l'est éternellement, c'est la parole de Dieu. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir mettre des pansements. Mais la seule chose qui peut guérir et cicatriser totalement, c'est la parole de Dieu. OK? Mais aujourd'hui, on panique tellement qu'on n'est pas prêt à attendre que ça cicatrise. On veut tout de suite mettre le pansement. Tout de suite, tout de suite. Et on ne comprend pas. Si Dieu m'aime, pourquoi? Si Dieu est avec moi, pourquoi? Si sa parole est vraie, pourquoi? Moi, je te dis, si sa parole est vraie, pourquoi tu ne prends pas plus de temps pour la mettre en pratique? Okay. Si je dis le mot réveil ici, là, tout le monde va, ouais. Mais, ce qu'on appelle réveil, en fait, c'est quoi? C'est la vie que Dieu veut pour nous, là. Si on regarde le livre des Actes des Apôtres, comment est-ce que cette église-là a grandi? Comment est-ce que cette église-là a prospéré? Comment est-ce que cette église-là a eu le succès spirituel qu'elle a eu? Guidée simplement par le Saint-Esprit. C'est une église qui a vu naissance qui a pris naissance par le Saint-Esprit. Et parce qu'elle a pris naissance de l'Esprit, elle a vécu par l'Esprit. Totalement, à 100%. Vous voulez marcher dans la volonté de Dieu? Marchez dans l'Esprit. Hein? Mais marcher par l'Esprit, ouais, ça demande un renouvellement de notre intelligence. Ça demande une façon de voir différentes les choses. Parce que l'esprit et la chair, la Bible nous dit, ont des désirs contraires. OK? Le livre des Actes est un merveilleux récit, un merveilleux témoignage de ce que peut avoir l'air une église, pas un bâtiment, pas une communauté, mais des gens qui vivent leur vie dirigé par le Saint-Esprit. Okay? Parce qu'une fois que j'ai reconnu que toutes ces choses-là, que Dieu est bon, qu'il a un bon plan pour moi, après ça, la chose qui me reste à faire, c'est de prier, c'est de méditer sa parole et de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Ouh, c'est stressant parce qu'on dirait que je ne fais rien. On dirait que je n'en fais pas assez, que je devrais faire quelque chose de plus. Mais pourtant, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, que fils de Dieu, nous pouvons nous attendre à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que c'est son ministère. Amen. Il veut nous conduire dans toute la vérité. Et Jean 10, 27, mes brebis, quoi? Entendre ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il faut commencer à confesser. Au lieu de confesser, je ne sais plus quoi faire. Il faut confesser, j'entends ta voix. OK? Mais voyez-vous, pour entendre la voix, c'est une chose d'entendre. Mais pour suivre, il faut la reconnaître, la voix. N'est-ce pas? Je donne souvent cet exemple de, avec les enfants, quand on s'en va dans un parc d'amusement ou quoi que ce soit, il y a des cinquantaines d'enfants là. Et ça crie, ça pleure, ça court du bruit, il y en a. Mais quand c'est ton enfant qui pleure, tu le sais. Quand c'est ton enfant qui crie, tu le sais. Est-ce que c'est le seul cri que tu entends? J'entends beaucoup de cris là-bas. Oh. J'entends beaucoup de pleurs. J'entends beaucoup de voix. Mais je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas pourquoi? Parce que je ne les connais pas. Si je veux reconnaître quelque chose, je dois d'abord le connaître. Si vous voulez reconnaître la voix de Dieu, vous devez d'abord connaître Dieu. Oui, mais Seigneur, je ne t'entends pas. OK. Peut-être. Non, tu m'entends. Les brebis entendent ma voix. Peut-être tu l'entends, mais le problème, c'est que tu ne le reconnais pas. Parce que des voix, on en entend beaucoup, n'est-ce pas? On l'entend. Parce qu'on sait, comme on a vu, on a établi d'avance comme principe de base que quoi? Il veut nous diriger dans ce plan. Donc, parce que c'est Jésus qui le dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, parce que c'est Jésus qui le dit. Là, on ne peut pas dire le contraire. Il y a des choses comme ça qu'il faut établir dans notre vie. Amen? Jésus l'a dit, c'est vrai. Donc, s'il dit que j'entends sa voix, c'est parce que je l'entends. Donc, maintenant, le problème est où? Peut-être que je ne la reconnais pas. Okay. Donc, je dois apprendre à la reconnaître. Et comment est-ce qu'on avance, finalement? On avance avec foi, en suivant la paix ou l'absence de paix. Okay? Alors que vous allez avancer avec le Saint-Esprit, vous allez apprendre à le connaître. Vous allez apprendre à comprendre et à reconnaître aussi comment il vous dirige. Amen? Et des fois, vous allez avoir une paix, une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui fait en sorte que le doute, l'anxiété ou peu importe la peur, quand elle vient, parce qu'elle viendra, cette paix-là fait en sorte que cette peur, peu importe si elle vient, ses pensées, peu importe si elles viennent, semblent ne pas être capables de prendre racine. Parce qu'il y a une paix qui chasse ces pensées-là. Et cette paix-là dit, c'est vrai que tu ne comprends pas tout, mais je ne sais pas, je continue. Et au contraire, il peut y avoir une absence de paix aussi. Une absence de paix qui te fait dire non, alors que tout le monde autour te dit, mais pourquoi tu dis non? Et tu dis, je ne sais pas. La seule raison que tu as, je ne le sais pas, je n'ai pas la paix. Okay? Et de croire que c'est Dieu qui nous dirige et qui ne se cache pas. Okay? J'ai invité l'équipe de louange à venir devant. Vous savez, on regarde un exemple de l'apôtre Paul en Actes chapitre 16, au verset 1. On voit un exemple d'un homme qui a été dirigé par le Saint-Esprit, qui a tout simplement suivi un peu les directions du Saint-Esprit. Et c'est un bon exemple de notre vie, de comment on devrait s'attendre à être dirigé par Dieu. Donc, Actes 16, à partir du verset 1, la Bible nous dit, « Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec. Les femmes de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. » Paul voulait l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. On va sauter au verset 5. Au verset 5, « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont allés, ou du moins ils avaient l'intention d'aller, et le Saint-Esprit les a empêchés. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Après, ou plutôt arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils se disposaient. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, lui fit « Cette prière passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Ici, on voit quoi? Ici, on voit des hommes remplis du Saint-Esprit, désireux de faire la volonté de Dieu, qui ont fait quoi? Qui ont dit, « Hey, la mission que le Seigneur nous donne, c'est d'aller de prêcher la bonne nouvelle, donc go! » Ils ont pris une direction, le Seigneur, le Saint-Esprit leur a empêché. OK. Ils ont pris une autre direction, le Saint-Esprit leur a empêché. Il a eu une vision, quoi? Hey, on a conclu avec cette vision qu'il fallait y aller. Ils sont allés. Et le Saint-Esprit ne les a pas empêchés. Des fois, on mystifie un peu la question d'être conduit par l'Esprit, de savoir la volonté de Dieu, alors que souvent, c'est juste d'y aller, de dire « go ». Suis la paix avec la sincérité du cœur de vouloir vraiment faire la volonté de Dieu. Assure-toi que dans ton cœur, il n'y a aucun désir égoïste. Et puis, vas-y. Crois que celui qui t'a appelé a un bon plan, va te diriger. Crois que celui qui t'a appelé, si tu te diriges dans la mauvaise direction et que si tu es toujours désireux, vraiment prêt et enseignable et humble à te faire dire « Seigneur, corrige-moi si je me trompe », crois qu'il va le faire. Quand je prends une décision difficile, à la fin, je me dis toujours « Seigneur, écoute, tu connais mon cœur, tu sais pourquoi je prends cette décision-là, si ce n'est pas ta volonté, montre-moi là autrement, mais sinon, j'y vais. » Ah oui, mais quoi là? Tu vas rester assis dans ta chambre à prier jusqu'à ce que tu aies la certitude à 100% de dire où ce que Dieu veut que tu ailles? À un moment donné, il faut bouger. Il faut bouger. Go, on essaye un côté, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas juste d'essayer à l'aveuglette, là, on s'entend. Je sais ce que Dieu veut. C'est quoi? Annoncer la parole. Allez annoncer la parole. Donc, je vais aller annoncer la parole. Okay? Est-ce que Dieu leur a dit à chaque... Non, là, je veux que tu ailles dans cette ville-là. Après, tu as été dans cette ville, je veux que tu ailles dans elle. Après, je veux que tu ailles... À chaque fois, c'est... Seigneur, est-ce que dans quelle ville tu veux que j'aille? À un moment donné, c'est vas-y. Vas-y. Dispose-toi. Nous étions disposés, la Bible dit. Disposés à y aller. Et dans notre disposition de cœur et prêt à aller à l'action, le Saint-Esprit dit d'une certaine façon, « Merci, je vois votre cœur, mais ce n'est pas tout à fait là que je veux que vous alliez, c'est ici. » Et ce qu'ils étaient prêts à faire ici, ils ont été prêts à le faire là. Okay. Et cette vision, j'aime ça, c'est quoi? Bon, mais après la vision, écoute, on est arrivé à la conclusion que probablement que le Saint-Esprit voulait qu'on aille là. Pas plus compliqué que ça. OK? Ils ont certainement pris le temps de prier. Mais après, tu dois y aller. Et ce processus, il semble trop simple, je sais. Oui, mais si je me trompe. Oui, mais si c'est pas ça. Oui, mais... C'est les « oui, mais » qui nous bloquent. Qui nous empêche d'avancer. Est-ce qu'on croit que notre Dieu est assez bon pour nous faire dévier si on emprunte la mauvaise direction? Et si on pensait sincèrement que c'était la bonne? Est-ce que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur? Et si tu penses sincèrement que c'est la bonne, pense pas sincèrement que ton Dieu est assez bon, est assez miséricordieux pour te dire, mon enfant, change de direction. Mais la question revient là. Est-ce que tu vas reconnaître sa voix quand il va te dire « change de direction » Parce que souvent, c'est « pourquoi est-ce que Dieu m'a laissé faire ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne me l'a pas dit? » Oh, Dieu nous parle beaucoup plus souvent qu'on pense. OK? C'est comme cette fois où il y avait eu une petite tempête de neige et justement, je devais prendre ma voiture pour aller au travail. Et quand j'ai ouvert la porte de ma maison, il y a un témoignage à l'intérieur de moi qui a dit « Prends pas ta voiture, demande à ta femme d'aller te reconduire. » J'ai fermé la porte et tout ce que je vous dis là, ça s'est passé à une fraction de seconde. Hein? J'ai fermé la porte, mais en fermant la porte, je me suis dit « Ah! » Ma femme travaille à Saint-Hyacinthe. Elle va aller me reconduire à l'école. Et là, ça va prendre du temps. Et après l'école, je vais devoir attendre à l'école qu'elle finisse de travailler, qu'elle vienne me chercher. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte et j'ai pris mon auto. J'ai fait un accident. J'ai appelé Daniel pour qu'il vienne me chercher. Ah oui? Et dans mon auto, tout ce que je pouvais me dire, c'est quoi? Je le savais. J'ai pas écouté. J'ai raisonné. Et je me dis quoi? Je me dis, si j'étais mort ce jour-là, OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de personnes qui se demandent, un homme de Dieu comme ça, comment est-ce que Dieu ne l'a pas sauvé? Un pasteur, il prêche la parole, il prêche la foi, pourtant, il est mort. Dieu n'aurait pas pu le protéger? Non, il me l'a dit. Hein? Il me l'a dit. Est-ce que je suis en train de dire que je connais toutes les raisons de toutes les situations qui arrivent dans la vie des gens? Non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous parle. Et ça aurait été une occasion pour beaucoup de gens de spéculer, de dire encore plein d'hypothèses qui font aucun sens. Ah, mais il avait peut-être un péché caché dans sa vie, qu'il avait pas, s'était pas repenti avant de prendre sa voiture. C'était la volonté de Dieu. C'était son temps, est arrivé. Non, Dieu m'a dit de ne pas prendre mon auto, je l'ai pris quand même. OK? C'est ça, là. Dieu est bon. Tout le temps. Dans chaque petite situation de notre vie. Il veut nous garder. Il veut nous protéger. Il veut nous guider. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Apprenez à marcher par l'Esprit. Apprenez à entrer en communion avec Dieu. Et encore une fois, les deux seules méthodes que je peux vous donner pour ça, c'est de prier et de méditer sa parole. Jusqu'au jour où ça va devenir une seconde nature, jusqu'au jour où il y a des choses qui vont avoir changé dans votre vie et que vous n'allez même pas être capable de dire ce que vous avez fait pour que ça change. Comment ça s'est passé? Parce que la parole de Dieu, elle est quoi? La Bible nous dit, elle est vivante. Elle est vivante. C'est-à-dire qu'alors que je la médite, alors que je la déclare dans ma vie, alors que je la déclare dans mes circonstances, elle produit la vie dans mes circonstances. Elle est vivante. Et peu importe qui semble justement mort dans votre vie, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Les sœurs de Lazare croyaient que oui, est-ce que tu ne crois pas à la résurrection? Oui, ils croyaient qu'on croit à la résurrection. On croit qu'à la fin, les justes vont ressusciter. Jésus dit non, je ne parle pas de cette résurrection-là de plus tard. Je parle de la résurrection de maintenant, que c'est moi la résurrection et la vie. Et des fois, on vit nos vies en tant que chrétien comme ça, en sachant qu'il y a un espoir pour plus tard, en sachant qu'un jour, on va être délivré. Amen, c'est beau tout ça, mais Jésus dit la vie éternelle, c'est pas seulement après. La vie éternelle que j'ai pour toi, c'est aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie aujourd'hui, maintenant. Donc, on ne vit pas seulement une espérance future que l'on reporte et qu'on espère justement qu'un jour on va y toucher. Non, c'est une espérance maintenant d'aujourd'hui. On prie et on prie. On se rapproche de lui. On apprend à entendre sa voix. On apprend à reconnaître sa voix. Une confession que j'aime faire, c'est quoi? C'est, j'entends ta voix, je la reconnais et je lui obéis. Okay? Dans les périodes où je suis le plus dans le doute, parce que oui, hey, ça m'arrive à moi aussi, c'est ce que je confesse. Seigneur, merci parce que j'entends ta voix, je la reconnais et je lui obéis. Okay? Vous pensez que Dieu va être indifférent à une prière comme ça? À des cœurs sincères. Amen. Et en terminant, il y a quelque chose qu'on peut être certain que c'est la volonté de Dieu. C'est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous acceptent le pardon des péchés. La volonté de Dieu, c'est que tous acceptent le don gratuit de la vie éternelle qu'il donne. Mais encore une fois, c'est quoi? C'est accepter. C'est-à-dire que ce cadeau, ce don gratuit vous est offert, mais c'est à chacun d'entre nous de prendre la décision de l'accepter ou non. Et ce matin, avant qu'on se laisse, je veux donner justement cette opportunité à ceux et celles qui sont ici ce matin et qui n'ont jamais accepté ce don gratuit, qui n'ont jamais fait du Seigneur Jésus leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, qui n'ont jamais confessé de leur bouche que, oui, je crois que Dieu s'est fait chair, qu'il est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, qui a pris ses péchés sur moi, qu'il est mort à la croix, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'en mettant ma foi en lui, j'ai une vie nouvelle. J'ai cet esprit nouveau, cet esprit qui me permet maintenant d'être en communion directe avec Dieu. Et la plus belle chose qui peut nous arriver en tant qu'enfant de Dieu, c'est, OK, je termine là-dessus, écoutez-moi bien là. Des fois, on a tellement d'inquiétudes, on a tellement de désirs, qu'on passe à travers le plus merveilleux des miracles. Le plus merveilleux des miracles, hein, le plus merveilleux des privilèges, c'est quoi? C'est de dire que moi, homme charnel, né de poussière, je peux avoir une communion directe avec le Dieu, le Créateur de l'univers. OK? On oublie vite ça. On le prend pour acquis. Mais quand on y pense, quand on médite là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus que ça, qui vaut plus que ça? De dire que justement, dans les livres de la loi, il y avait une personne seulement, sans un rituel très minutieux qui pouvait avoir accès à Dieu. Et même là, il y avait un risque de mourir là devant Dieu. Qu'avant, c'est une personne qui pouvait avoir accès à Dieu, puis maintenant, j'ai accès à Dieu, j'ai le libre accès à Dieu. C'est mon papa. OK? C'est mon papa. Je viens devant lui. Je me confie en lui. Je crois en lui. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver. La plus belle. Et lorsqu'on se confie là-dessus, lorsqu'on bâtit là-dessus, okay, le reste vient là. Le reste vient. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut goûter à ce privilège pour la première fois, c'est très simple. Je vais tout simplement compter jusqu'à 3. Et je vais vous demander un acte de foi à 3, juste de lever la main. Et on va s'unir ensemble dans la prière. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, pour la première fois, qui veut dire oui au Seigneur Jésus? 1, 2, 3. Juste lever la main. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, je vous laisse là-dessus. Je vous exhorte à chercher Dieu, à chercher à le connaître, à chercher à reconnaître sa voix. Parce qu'encore une fois, c'est quoi les principes de base qu'on a vus ce matin? Oh, c'est votre examen, là. Okay, je vais me tenir à la porte, à la fin, je vais demander à chaque personne de me les dire. Okay? Vous ne sortez pas tant que vous ne l'avez pas dit. Okay? Comme un bon enseignant, je vais vous le répéter. OK, on va le dire ensemble. Dieu a un plan pour moi. Son plan pour moi est bon. Il désire me révéler ce plan. Et il désire me conduire dans ce plan. OK, gardez ça profond dans votre cœur. Amen. Parce que tout le reste va se bâtir autour de ça, de la fidélité de Dieu, de votre foi. Soyez bénis. Bonne semaine.